Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous!
Nous sommes le 23e jour de la première lune de la teinte sanguine 1131. Ça fait à peu près 11 jours qui se sont écoulés depuis la dernière fois. Alors que vous êtes assisté par les gendarmes pour arrêter Pederio, un horaire membre de la loge vénitienne anthropo-mécanologique qui a rompu ses serments et conspirationné contre les siens. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que ces petites affaires, hein, plus naturelles pour des métropolites que celles qu'on vous accorde souvent, eh bien, ces petites affaires vous font un plus grand bien. Ces derniers jours ont donné un regain d'énergie à l'équipe. Après une dizaine de jours à ne plus vous sortir du bourbier qu'est l'affaire Maria et Zenati, cette courte affaire qui vous a pris à peine 48 heures était ce dont vous avez besoin. Un peu d'action, une enquête palpable. Tellement palpable que Pederio a laissé traîner derrière lui une plaque de cire avant toutes ses conspirations. Excusez-moi, c'est un mot difficile à prononcer. Bref, quelque chose qui avance et qui prouve que vous êtes d'efficace métropolite. Après son arrestation et vos félicitations de la part de vos supérieurs, vous décidez de rentrer au QG. Le temps de rentrer sera l'heure de la pause méridienne. Pardon, j'ai du mal avec les mots ce soir, donc je le refais. Donc le temps de rentrer, il sera l'heure de la pause méridienne, et un bon repas cuisiné par Kornilov vous fera le plus grand bien. Sur le chemin, vous prenez le temps de discuter, comme à l'habitude. Hugo a le bonheur d'annoncer que son poème est enfin prêt, et que c'est sans regret finalement qu'il s'est de temps en temps retiré de l'affaire Maria Zenati, tout simplement pour s'occuper de ce poème. Et il faut bien l'avouer pour vous, que vous pouvez que lui donner raison, sans même encore avoir lu son poème. Vu l'état d'avancement de l'enquête, finalement, ce n'est que du temps gagné. Pour être bref, sur l'enquête, aucun élément supplémentaire ne vous a sauté aux yeux. Rien de plus que tout ce que vous aviez déjà. Vous avez discuté ici et là avec certains témoins, avec certains proches, du coup, de Maria Zenati, mais personne n'a su vous donner plus d'éléments que vous avez. Il y a des zones d'ombre dans cette affaire, et les plus pessimistes d'entre vous disent même qu'elle n'a que des zones d'ombre. Mais vous avez malheur de ne pas trouver l'élément manquant, celui qui permettrait d'enfin mettre les pièces du puzzle dans le bon sens. Quant à votre discussion avec Alceo dall'Innocenzo, vous l'avez toujours en tête. Vous vous devez de savoir si oui ou non il procedimento est un céphale. Pour l'instant, aucun consensus a trouvé sa voie dans le groupe, et la question est encore bien ouverte. Mais tout ceci met de côté une affaire dont le destin ne semble pas vouloir vous débarrasser. Alors que vous arrivez proche du QG et que vous rangez vos vélos dans le local prévu à cet effet, un local aménagé grâce à Esther qui s'était mise d'accord avec la communauté bâtimentale où se situe votre QG. Vous êtes soudainement pris d'un doute. Une petite forme sans être visible proche de votre porte. C'est une forme inhumaine, plutôt plate, rectangulaire, carrée. Cela pourrait être n'importe quoi, un tableau, un meuble, qui sait. Mais vous n'aimez pas particulièrement ce genre de surprise. Pas depuis qu'il s'est introduit chez vous. Vous êtes en bas des escaliers, l'objet est visible, mais non reconnaissable de là où vous êtes. Que faites-vous ?
J'essaie d'analyser, voir si j'arrive à comprendre ce que c'est.
Comme dit, vraiment, de là où vous êtes, ça pourrait être énormément de choses. Ce n'est qu'une forme rectangulaire qui dépasse de votre palier.
Bon, bah du coup, voyant qu'on est tous un peu paralysés par cette situation, je vais prendre une grande respiration pour me gonfler un peu de courage et de volonté. et je vais grimper les quelques marches qui restent pour m'approcher.
Très bien. Tu commences à grimper. Les autres, est-ce que vous le suivez ou est-ce que vous restez en bas ?
Oui, je vais
le suivre.
J'reste un peu en arrière.
Ok. Vous grimpez donc les escaliers, les nombreux étages qui vous séparent du rez-de-chaussée. Et plus tu t'approches, et plus tu commences à reconnaître la forme. C'est une grosse boîte. Une énorme boîte de cuivre. Qui semble être laissée là, devant le palier de votre porte. Et visiblement placée pour le... en sorte pour qu'on on la voie depuis le rez-de-chaussée. Tu continues t'avancer et tu te retrouves enfin au niveau de l'objet. Effectivement, comme tu le devinais, la boîte.
Ok, je pense que je vais juste peut-être le pousser à boîte du bout du pied très très doucement et sans aucun geste brusque parce que je sais pas, on s'attend à tout.
Tu pousses du pied la boîte. Elle se décale. En la poussant, tu remarques quand même que... En prenant en compte le fait que ce soit déjà une boîte de cuivre, donc qui demande un certain poids, parce que c'est du métal, tu remarques que la boîte a l'air quand même plutôt légère.
Ok. Bah, du coup, je vais me saisir de la boîte, hein, tout simplement, et je vais me tourner vers mes compagnons et je vais leur faire signe d'ouvrir la porte, comme ça on rentre.
Très bien.
Oh, en tout cas, c'est sympathique, on va pouvoir leur cycler pour faire de nouvelles plaques. Enfin, si tu pourras t'en occuper, etc.
Ouais. Vous allez pour ouvrir la porte. Quand vous entendez une voix s'élever un peu derrière vous, enfin plutôt au-dessus de vous, pour être exact. Ah, vous voilà enfin! Et vous voyez des étages supérieurs, un petit homme descendre rapidement. Il descend les deux paliers qui vous séparaient et arrive à votre niveau un peu essoufflé. C'est un jeune homme aux cheveux roux, vraiment assez jeune pour le coup, lui donnerait la vingtaine d'années maximum. Et. Arrivé à votre niveau, fait ah bonjour, je suis très bien le transporteur de votre colis. Voilà, je suis un coureur et je j'aimerais bien être payé maintenant que vous avez ce que vous voulez. Je vous attendais, je savais pas où vous étiez passé.
Comment vous appelez-vous ?
Oh, je m'appelle Eduardo. Et voilà, après, elle m'a pas donné son nom, en fait, elle est partie aussi vite, en fait, qu'elle est venue, elle est venue, elle m'a dit que c'était un document officiel pour vous, que j'ai Indigo, donc elle m'a donné vos identités, Esther, Victor, Hugo et Kornilov, si je dis pas de bêtises, et que je devais vous le transmettre, elle m'a donné votre adresse, et puis voilà.
Ok, très bien, merci.
Pas de soucis, et toujours un plaisir de rendre service aux métropolites.
Ouais.
Voyant que vous rentrez pas forcément dans son jeu, il tourne les talons et vous salue de la main en partant. Vous vous retrouvez seul, tous les trois face au colis. Vous savez que Victor, quant à lui, a dû... traiter quelques affaires familiales urgentes. Semblerait que le prêt d'une feuille de papier par sa mère demande un peu plus qu'un sourire en remerciement. Quoi qu'il en soit, vous êtes donc tous les trois seuls et vous rentrez au QG à part contre-indication de votre part.
Non, on rentre.
Très bien.
Oh, mais quel grossier personnage ce coursier, vous ne trouvez pas ces gens-là ont une façon de d'être obsédés par par ceci. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Mais toujours là, demander leur dû. Je pense que ah, j'en ai connu des bien plus polis. Enfin.
Ouais, c'est vrai qu'il pourrait demander d'être payé par le par nos supérieurs. Ce serait plus simple.
Ah non, je ne rechigne pas à le payer, je rechigne à ce qu'il me demande de le payer.
Voilà. Mmh. Oui, pourquoi non pas.
Oh. Ouais.
Bah, est-ce que...
Estamou, qui... Bah, faut dire que ces derniers temps, le QG a été vous passer beaucoup plus de temps que prévu. De quoi être sur place.
Ça va. J'étais habitué, moi, déjà.
au point qu'on pourrait même se poser la question pour Esther si elle préfère par sécurité garder son, enfin amener son lézard au QG ou est-ce qu'elle le laisse chez elle, parce que c'est vrai que au fur et à mesure des semaines on a pu remarquer une tendance à un peu camper le QG, ce qui est très bien. Quoi qu'il en soit, du coup ça fait que au QG vous avez souvent de quoi écrire pour Hugo. De quoi composer, et de quoi cuisiner pour Kornilov, malgré tout. Mais pour Esther, du coup, de quoi bah, bricoler un peu, elle a des outils sur place, sachant que, bon, elle avait installé le système, vous savez, de code pour la porte. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal de travail déjà à Esther au QG, donc elle a ce qu'il faut, donc elle va pouvoir rapidement aller chercher bah, de quoi briser le métal qui scelle actuellement ce petit boîtier. Vous vous installez pour l'ouvrir confortablement, sans être trop de surprise. Vous l'ouvrez au rez-de-chaussée ou vous l'ouvrez à votre étage, le lieu un peu plus logé pour vous?
Au rez-de-chaussée, je pense.
Ok. Esther, tu allumes ton petit chalumeau pour commencer à chauffer le métal. Et avec un énorme morceau de métal qui sert... à ouvrir ce genre de boîte scellée, tu as juste à mettre un seul coup sec pour faire sauter le morceau de métal qui retenait du coup l'ouverture de la boîte. Tu peux éteindre rapidement, c'est vraiment un petit chalumeau, c'est vraiment, t'as pas besoin de chauffer non plus énormément, c'est juste pour l'affaiblir un tout petit peu, tu le fais pas fondre non plus. Tu éteins, tu peux reposer tes affaires et la boîte est donc prête à être ouverte. Je m'en qui a envie de l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans.
Bon, je laisse l'honneur à quelqu'un d'autre.
Je veux bien.
Ok. Hugo, tu te saisis du boîtier, enfin de la enfin du couvercle, pardon, de la boîte, hein, et tu le retires. Ce que tu vois en premier lieu, parce que tu as la personne qui est penchée par-dessus la boîte, hein, c'est qu'il y a deux éléments dans cette boîte. Un masque et une plaque de cuivre.
Mm-hmm. Quel genre de masque ?
À regarder de plus près, il s'agit d'un masque visiblement qui semble être porté, parce qu'il contient des traces d'usure tout simplement dans ces matériaux. Et ce masque a une forme un peu de crâne humain. Vous le reconnaîtrez entre mille, hein, puisqu'il s'agit celui de Il Procedimento.
Je pense que je vais le laisser un peu tomber. Enfin, je vais le prendre et le laisser tomber un peu surpris. Dieu. Non, pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, oui, tout à fait, t'inquiète pas, ça te glisse des mains.
Sous le coup, auto-révélation. Je vais donc me saisir par la suite de la plaque.
La plaque, elle est très succincte. Tu vois seulement trois lignes, deux phrases. Il y est écrit ceci. Il vous reste peu de temps. Trouvez E.B.
On n'a personne qui a EB. On est tous des gens qu'on a croisés.
Oui. J'ai pensé tout d'abord à Monsieur Roland Rodet, mais Roland ne commence pas par... Une femme? Attendez, quoi? Une femme? Nous avons peut-être un indice.
Non, c'est pas...
Veuillez m'excuser de ma profonde surprise. Ah, mais non! Si ça se trouve, ce n'est que Alig ou quelqu'un du ministère qui nous a fait livrer cette...
Mis à part si Alig a changé de couleur de cheveux. Mais je pense que...
C'est... Non, ce n'est pas Alig. Elle ne correspond pas à la description, effectivement.
Ouais. Mais je ne pense pas que ce soit il procédimento en personne qui ait donné ce... Ceci, ce ne serait pas très... pas très malin. Et de toute manière, nous savons que son travail n'est pas le travail d'une femme. Mais je cherche toujours, je regarde mes notes. Je vais chercher mes plaques tout de suite. Comment est-ce que chercher des EB?
Des registres auxquels on peut accéder.
C'est-à-dire, pardon, j'ai pas entendu le début de ta question.
Je demandais s'il existait des registres, étant donné qu'on n'a pas de papier, est-ce qu'il y a quand même, par exemple, une base de données en plaques de cuivre qui pourrait servir d'annuaire ou quelque chose comme ça?
Pour avoir beaucoup enquêté de mon côté, je laisse.
Ah, ok. De toute façon, je réponds rapidement et après, t'inquiète pas. En fait, c'est un peu compliqué. Vous avez déjà eu affaire à ça à l'époque pour Sophia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en tant que tel vraiment un registre. Il n'y a pas un truc national dans lequel on note tous les gens qui existent, parce que de toute façon, il y a trop de monde, il y a des gens, on ne sait même pas ce qu'ils foutent là, mais bon, il faut faire tourner. On essaie quand même de régulariser, ça sert les petites plaques métalliques que vous avez en termes de pièces d'identité. On essaie quand même de réguler qui rentre exactement en vie, qui en ressort surtout. Et en fait, c'est surtout une question de sécurité, mais le problème, c'est que c'est très récent. Donc, il y a des registres qui sont possibles d'obtenir, pour le coup, qui ne sont pas gérés forcément par le ministère de la propagande. Donc ça va demander des ressources, etc. Mais il y a moyen d'en obtenir, et il faut savoir que du coup, c'est très récent dans l'installation de la ville. De ce que vous savez que ça date d'il y a 5-6 ans à peu près. Cette installation d'un système vraiment avec des plaques, etc., c'est très récent. Donc ça existe, mais c'est limité, et c'est assez compliqué à obtenir. Et du coup, Hugo, je te laisse dire ce que tu voulais dire.
Ah ben non, mais c'était juste pour préciser sur les bases de données. Que...
Ah oui, d'accord. Voilà. Autant pour moi.
Rien de... Vu que j'avais moi-même fait beaucoup de recherches sur Il Prodisimento, justement.
Je vous laisse... me dire du coup ce que vous faites, est-ce que vous réfléchissez à un truc, est-ce que vous cherchez des choses, n'hésitez pas à verbaliser quand vous cherchez, dites-moi tout.
Eh bien... Je doute qu'il y ait quelque chose, mais inspiré par notre notre enquête de début de geste 2, avec où il y avait des traces de sang sur les tableaux et tout ça, je vais m'intéresser de plus près à ce masque et voir si, par hasard, peut-être, il n'y aurait pas telle ou telle trace, tel ou tel cheveu, tel ou tel poil de moustache ou quoi que ce soit.
tu regardes. À vrai dire, ton analyse est plutôt très bien formulée. En plus, c'est super de le préciser. Hein. Je rappelle, c'est toujours du bien de répéter. Mais Ekrim n'a pas de jet de perception, parce qu'il suffit d'y penser, mais ce qui fait que si vous n'y pensez pas, vous passez peut-être à côté de quelque chose. En tout cas, pour ce qu'il en est, ce qui te saute aux yeux, c'est que le masque a été minutieusement nettoyé avant d'être donné. Mais il est usé, comme je l'avais dit, sur certains matériaux, ça se voit que c'est du matériel qui commence à être usé, qui a eu plusieurs utilisations, et que ça fait du temps, hein, ça fait quand même un moment, c'est pas un masque qui a été créé la semaine dernière, quoi. Ça se voit sur le cuir qui est un peu abîmé, sur les petites plaques de métal qui commencent à être pas rouillées, mais qui commencent à perdre sa teinte. Du coup, tu ne trouves pas tellement d'éléments supplémentaires, genre un cheveu qui aurait traîné, quelque chose comme ça, mais tu sais une chose, c'est qu'il a été vraiment nettoyé, qu'il a été utilisé, et que vu l'état du masque, il a sûrement absorbé quelques chocs, mais pas de traces supplémentaires visibles.
C'est quoi comme masque exactement? C'est un masque de carnaval vénitien, dans le sens comme nous on le connaît dans notre monde, en mode harlequin ou quoi?
Pour le coup, si tu veux, tu peux aller voir le trombinoscope principal dans lequel il y a une image di procedimento. Et en fait, le masque, c'est vraiment un masque fait de cuir. Ouais, c'est ça, il a la forme d'un crâne. C'est vraiment un truc intégral, en fait, qui prend tout le devant du visage, qui est fait de cuir et de métal, et qui est vraiment fait pour être posé, attaché derrière le crâne, et comme vous avez connu le procedimento, caché en plus par-dessus une capuche. Enfin, en dessous du capuche. Exactement. Merci Kornilov pour le repose de la photo.
Mais tiens, j'ai dit penser, vu qu'on est quand même... est-ce que à Venise, ville d'artistes et de représentations, il y a des orfèvres, des artisans qui sont spécialisés dans le... la fabrication de masques?
Alors, oui. C'est notamment le cas du contact de Kornilov.
Ouais, celle-là.
Non. Ah oui, d'accord, ça, je viens de comprendre le sens de la question. Excusez-moi. je refais mes phrases, excusez-moi, du coup je me suis perdu. J'avais deux informations à traiter, mon cerveau il a surchauffé. Oui, du coup, oui, il y a des gens qui créent des masques, mais comme la contact de Kornilov, que j'ai perdu le nom, mais il faudrait que je check 2-3 pages en arrière, je devrais l'avoir, qui est vraiment en fait en lien avec le théâtre. C'est surtout là-dedans que ça se fait, c'est des forgerons, c'est des gens qui sont habitués à faire des costumes, surtout pour les masques. Il y a des masques vénitiens hein, qui, pour le coup, existent aussi dans Écrit, ils ont un petit lien avec Venise. Mais ouais, du coup, oui, il y a des artisans qui sont spécialisés dans le fait de concevoir des masques, des trucs au visage, etc.
Mm-hmm. Et donc, avons-nous jamais pensé à soumettre ce masque à votre contact pour savoir plus, sinon nous l'avions déjà fait, peut-être?
Bien, on l'a jamais fait parce que. C'est vrai que jusqu'à présent on partait sur des histoires de trucs militaires etc. par rapport à sa tenue. C'est jamais trop intéressé à son masque. On pourrait payer une visite à cette chère madame pour lui demander en également le masque. Je n'ai absolument pas oublié son nom, c'est juste que je ne l'ai pas devant moi.
N'oublie pas d'aller voir ton carnet de joueurs pour aller voir tes contacts. Mm. mais tout à fait. Et puis surtout que maintenant, vous avez un vrai masque palpable, du coup, à montrer. Donc effectivement, ça peut être une première piste.
Bon, en tout cas, on doit enquêter un peu plus en profondeur maintenant. Cette chose nous a encore mis au défi. Je pense que nous allons devoir en référer immédiatement à nos supérieurs de toute urgence.
Attendons.
Qu'en pensez-vous? Combien devons-nous taire
Nous n'avons pas spécialement besoin d'en parler, d'autant plus que si on commence à à réanimer très franchement l'histoire et le procédimento de manière officielle. Il y a un certain supérieur de nos supérieurs qui risque de recommencer à nous mettre une certaine pression parce que l'affaire deviendrait de nouveau très, très active, sachant qu'on a déjà de la pression sur cette affaire-là. Pas spécialement partant. En plus, qu'ils vont pas pouvoir nous aider. Des EB, il doit y en avoir 3000. Eh bien, il semble que j'ai fait mouche. Alors.
Il semblerait que tes collègues, maintenant silencieux, semblent plutôt d'accord avec l'idée de pas trop réveiller le cagnot un peu vénère derrière vous.
Ouais, ouais. Alors, on peut donc aller voir cette dame. C'est déjà une piste.
Néanmoins, donc, quelle théorie mettriez-vous sur le fait que... retenir ce livreur, bien qu'il nous ait donné la description de la personne qui lui a donné cette chose. Enfin bref, ça aurait été fort utile. Maintenant, je pense qu'il est bien loin.
Honnêtement, si on devait chercher dans les gens que nous avons rencontrés depuis que nous sommes métropolites, de ma mémoire, en tout cas, de la seule fois où on a vraiment rencontré cette personne, la description qu'on nous a donnée, des cheveux noirs, brun foncé, ainsi de suite, qui vont de chaque côté du visage de manière très... très harmonieuse, le fait que ça cache aussi ses sourcils parce que ses cheveux passent par-dessus, c'est il semblerait, notre fameuse morte. Je partage ici un dessin.
Vous voyez Cornelio sortir un petit tableau.
Je fais un petit dessin comme ça, là. Hop.
Vous avez un très bon coup de fusain, Cornelio. Oh,
oui. Oui, j'ai quelques talents cachés, je dois l'avouer.
Vous n'avez jamais pensé à exploser ?
Je pourrais, mais il faut dire que ça n'arrive pas très souvent dans mon pays natif, donc ce n'est pas dans mes impulsions naturelles.
Oui, mais ici nous sommes à Venise, pas chez ces barbares du Lens, enfin.
Oui, parlons de ma théorie, du coup.
Oui, rien que l'idée de ce rustre, Moudjik, me froisse ma créativité. Mais bref, oui, effectivement, votre théorie.
Oui, d'après moi, du coup, c'est Maria...
J'ai peut-être une idée.
Mm-hmm.
J'aimerais inspecter, ce coffret. Ce qui aurait... ce serait trop facile. Une quelconque étampe, c'est-à-dire un coup de un caractère en métal qu'on tu sais qu'on laisse une trace quoi en mode produite par tel endroit, telle usine, tel machin comme c'est l'habitude sur des produits manufacturés.
Ouais, le problème c'est que c'est une simple boîte hein, de cuivre, mis à part qu'elle a été scellée, elle avait rien de spécial et en cherchant, tu le sais un peu au fond de toi, mais il y a très peu de chances que ces genres de boîtes qu'on fait, c'est un peu du prêt à refondre, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une boîte, on les confectionne en série, et une fois qu'elles ont fait 2-3 petits tours entre plusieurs propriétaires, on les refond pour faire d'autres choses à côté. Donc c'est très rarement le genre de choses auxquelles on va marquer, parce qu'il n'y a pas vraiment de fierté à produire ça, généralement c'est produit en usine, en série et c'est envoyé puis refondu puis renvoyé. Donc malheureusement il n'y a pas de la moindre estampe sur ce métal. Que faites-vous ? Quoi discutez-vous ? Dites-moi tout.
Oh.
De mon côté, j'ai pas trop d'idées, donc j'attends surtout de voir ce que les autres ont à proposer pour voir ce qui va être le plus pertinent.
Honnêtement, je suis d'accord avec la proposition d'Hugo, qui était celle d'aller voir mon fameux contact qui pourrait peut-être nous dire des choses sur ce fameux masque.
Ouais,
c'est vraiment la seule chose qui me vient en tête. Allons-y.
Parfait.
Est-ce que vous prenez le et la plaque de cuivre ou est-ce que vous prenez que le masque? Ou est-ce que vous prenez les trois avec la boîte? Ok, on te réécoute.
Donc je disais, le mood est un petit peu similaire à d'habitude, puisque par exemple, du coup, la boîte a quand même cet aspect un petit peu inquiétant qu'on pourrait avoir à chaque fois. Bon, c'est quand même une espèce d'augure, mais ça reste encore relativement, ok, comme on va dire, comme augure comparé à ce qu'on a pu avoir avant, comme par exemple les gens qui rentraient chez nous et tout quand on n'était pas là. Enfin, les gens. On sait qui, hein. Je dirais que paradoxalement, peut-être que la parano habituelle peut commencer un petit peu à se tasser pour le moment. Et puis, je pense que pour l'instant, il y a toutes les choses qui ont pu se passer juste hier qui finalement trottent un petit peu dans la tête testeur, dans ma tête du coup. Le rendez-vous, etc. Finalement, c'est pas mal de choses.
Ok. Merci beaucoup. Vous arrivez à la loge des antiquaires. Devant l'énorme bâtiment, vous êtes toujours pris un peu de... pas de vertige, mais d'une perte un peu de repère. C'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué de se déplacer, de se retrouver surtout hein, de manière efficace dans un bâtiment aussi large. Vous êtes habitué hein, à travailler sur les hauteurs, mais sur la longueur, c'est beaucoup moins naturel pour vous. Vous essayez de retrouver plus ou moins l'entrée la plus proche de votre souvenir, sachant que les portes ressemblent un peu toutes à celles où vous avez pu accéder rapidement à ce cher Emily Ford. Après quelques minutes assez longues de recherche, rentrer dans une porte, finalement, c'était pas le bon endroit où vous avez dû vous reconduire. Hein. Vous arrivez enfin à cette petite cour intérieure dans le bâtiment dans lequel vous avez déjà rencontré Emily Ford une première fois. Quand vous rentrez dans cette petite cour, une vingtaine d'élèves, entre 20 et 25 ans, peut-être la trentaine pour certains, vous direz, quittent immédiatement Emily Ford. Enfin, ils étaient en rang de quitter son cours, hein, ils ne quittent pas par votre présence. Et tout simplement, vous passe devant sans trop vous calculer comme des étudiants qui ont d'autres choses à réfléchir. Je vous laisse vous présenter, saluer Madame Ford.
Bah du coup je me présente, enfin je m'approche en premier hein, vu que bon c'est moi qui la connais. Donc je vais juste me présenter d'abord physiquement tout simplement, hein, approcher, voir si elle est, si elle n'est pas occupée avec quelque chose d'autre.
Tu vois que elle était un peu en train de réfléchir à autre chose quand elle réalise ta présence avec un petit mouvement de recul. Oh, Kornilov, cela fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu ici.
Oui, à mon grand regret d'ailleurs, malheureusement, mes journées sont chargées.
Ah, je comprends bien, je comprends bien. Sachez que vous êtes toujours le bienvenu pour vous améliorer dans votre jeu.
Ouais. Et je viendrai d'ici peu. Malheureusement, aujourd'hui, je suis là justement par rapport à mes journées chargées.
Bien, je vous écoute.
Alors, nous aurions quelques questions à propos d'un objet qui a l'air d'être assez particulier et qui pourrait être utilisé dans le domaine du théâtre, ou en tout cas dans certains domaines artistiques. Et si on pouvait avoir un avis sur cet objet, cela nous avancerait.
Bien entendu, dites-moi tout. Vous savez, je suis décoriste. Et bien là, mon métier de savoir costumer les gens, de savoir m'occuper de ce genre. Je suis costumière, d'ailleurs, je viens de dire n'importe quoi.
Eh bien, parfait. Et donc je vais me tourner vers mes collègues pour qu'ils ouvrent la boîte et qu'ils lui montrent le masque.
Et je m'exécute immédiatement.
Très bien. Vous voyez que vous lui montrez le masque. Elle a un petit mouvement de recul en le voyant. Puis vous demande si elle peut s'en saisir.
Allez, go. Oui, allez-y.
Elle prend le masque et commence à le regarder. En parlant un peu à voix haute, mais à mi-voix, un peu comme si elle se parlait plus à elle-même qu'à vous. J'aurais juré déjà connaître cette forme. Intéressant. Vous voyez qu'elle relève la tête un peu vers vous. Oui, déjà, ce que je peux affirmer, c'est que c'est une très bonne main qui a travaillé là-dessus, mais pas une main professionnelle. Vous voyez, dans la conception, il y a quelques défauts qui est plus présent, disons, chez les personnes qui n'ont pas une formation accomplie dans le métier de costumier. Mais c'est une personne qui a l'habitude, je pense, de côtoyer ce milieu. Elle a malgré tout une main assez souple pour le travail du cuir, le travail du métal. C'est surtout le métal hein, qui flanche un peu plus. Je pense que le métal a été sûrement sous-traité. Les quelques pièces semblent plus sortir d'usine, disons, que de la main d'un artisan. Les coupes sont beaucoup trop droites, j'ai envie de dire, ressemblant plus à ce que produit une machine que produit la main d'un forgeron. Bien que les forgerons peuvent faire des coupes très droites, mais ça se tient là au détail. Et sinon, savez-vous d'où vient ce masque? Sa forme me parle.
Il vous parle en quoi?
Je saurais dire, ce n'est pas quelque chose que je connaîtrais de longue date, mais je pensais, vous savez, comme une forme déjà vue, peut-être dans une autre pièce de théâtre, peut-être.
C'est bien possible. En tout cas, d'après ce qu'on sait, en effet, il viendra en effet plus du domaine de l'art que de la simple décoration.
Je vois aussi qu'il a été un peu abîmé, c'est un masque qui a été longuement porté, non?
Oui, a priori.
Je vois. Je n'arrive pas à dire, mais je suis sûr de l'avoir vu peut-être sous une autre forme un jour. Je ne sais pas combien de temps avez-vous à votre disposition, mais si jamais vous revenez d'ici quelques jours, le temps que je mette le doigt sur cette impression, peut-être que j'aurai d'ici là trouvé d'où vient-elle.
Pourquoi pas, si vous voulez, nous pouvons également vous donner notre adresse et vous pourrez passer à l'occasion et vous serez rémunéré pour... Que ça vous revient, vous passez nous voir, on vous dédommage et on aura notre information plus vite.
Je n'ai aucun problème avec cela, après tout. Cela est bien normal, après tout, pour aider de jeunes métropolites en travail. Vous voyez que du coup, elle vous demande l'adresse, vous lui partagez. Et je sais pas, c'est, vous demande si vous avez d'autres questions, d'autres choses à lui soumettre.
A priori, non.
Je crois pas avoir grand-chose, non.
très bien. Elle vous demande si du coup elle a été à la hauteur de vos espérances et.
Oui, bien sûr. Toujours.
Et qu'elle a un sourire satisfait d'elle-même quand vous dites ça, malgré son côté un peu droite et. Du coup, vous remercie de votre visite et vous congédie si vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire.
Mmh. Et bien, dès que nous retrouvons tous les trois seuls, je vais me tourner donc vers mes compagnons et je vais dire ça me paraît étrange que quelqu'un comme notre bonhomme semble être un si grand artiste. Hein. Je rappelle ce qu'on nous avait raconté sur la musique qu'il avait utilisée, etc., qui a priori était une composition originale, qui est incroyable, qui était vraiment une œuvre à part entière. Ici, on a du métal industriel taillé de manière dégueulasse. De manière justement industrielle. Ça me ferait penser que ce masque serait peut-être plus, au moins ces pièces-là, un travail de commande plus que quelque chose qu'il aurait fait lui-même. Il a l'air trop sophistiqué pour faire quelque chose d'aussi banal. Et ça me fait penser, pour que quelqu'un soit aussi mauvais avec du métal de nos jours, c'est que c'est un Vénitien. C'est un artiste de Venise depuis toujours.
J'acquiesce. Respect.
On a vu, Hugo, c'est vous qui avez le plus de connaissances dans le domaine de l'art, a priori.
Bien, personnellement, oui, effectivement, je suis choqué par ce qui nous est révélé. Et sûrement, les applications, je ne sais pas si elles sont vraies, mais sont courantes. Et nous avons affaire, je pense, à un artiste, mais un artiste pas très reconnu, je pense. Pas affilié à une quelconque guilde, qu'un autodidacte.
Ouais.
Nous avance pas énormément. On va relier s'il y a une quelconque méthode de travail adoptée par. N'importe quel groupe, troupe, que sais-je. Donc, que nous en sommes toujours même.
Pour l'instant, ça ne nous avance pas, mais ça pourra nous avancer plus tard, lorsque peut-être nous aurons des suspects. C'est un profil. Je note ça.
Très bien. Avez-vous une idée pour la suite de votre journée ? Quelque chose à faire ? Une envie ? Dites-moi tout.
Est-ce qu'il pourrait y avoir, dans les gens qui fréquentaient par exemple le petit théâtre rouge ou autre, des gens qu'on n'aurait pas interrogés, des employés ou autres, et dont les initiales pourraient être le fameux, c'est quoi, c'est EB ?
Ouais. EB.
Alors,
évidemment, c'est
moi j'avais pensé à Roland Bonnet. Ça matche pas.
De toute manière, ce petit théâtre, on est censé y retourner depuis un petit moment maintenant pour faire la bise à Fotus, qui a priori ne nous a pas dit qu'il était un grand ami de Maria Zinati.
D'autant plus. Donc on peut commencer par voir si... Parce que j'en sais rien, ça se trouve, il y a le type qui était chargé de réparer le toit à l'époque et dont... Enfin, il y a un petit type qui n'existe pas, hein, c'est un exemple que j'invente. Et dont on ne s'est pas interrogé à l'époque qui a ces initiales-là, et on est en train de nous donner un indice par rapport à... Alors, c'est peut-être pas forcément lié au petit théâtre rouge, mais ça peut être voilà, ce genre de truc, peut-être. Mm-hmm. Les cheveux, mais j'ai rien de forcément plus probant pour le moment.
Excusez-moi, Kornilov, mais j'ai l'impression que vous avez dit plusieurs fois que vous allez voir Fotus. Photius est mort.
Pas Photius, excusez-moi. Non, ah, pas non plus, l'autre, le concierge qui sert à rien. Lui aussi nous a menti plusieurs fois. Il me semblait qu'attendez, je me suis perdu. Où sont mes notes? On voulait aller le voir, hein. Je sais qu'on voulait aller le voir. Mais pour quelle raison? Bon, de toute manière, il faut raser ce théâtre et tous les gens qui habitent.
Serait-ce là Oui. De toute façon, du théâtre pour les pauvres, je suis désolé, mais c'est comme donner de l'argenterie à quelconque trucheur. Mm-hmm. Vous voyez de quoi je parle.
Eh bien, de toute manière, oui, il faut aller reposer des questions à tous ces gens, hein, parce que on les a pas revus depuis, et on les a pas revus.
Je pense que vous parlez de Aaron X.
Oui, de toute manière, ça va être Aaron, ça va être le mari de Photius qui nous a jamais dit qu'ils étaient amis avec Maria ou que ce soit. Tout le monde nous a menti à l'époque. Personne ne nous a dit ce qu'on voulait savoir.
Eh bien, pourrions aller les voir de manière frontale, peut-être. Propose que pourrions, je sais pas, les menacer, d'emprisonnement. Enfin, je pense que nous devons les mettre à la gêne, peut-être de façon séparée, comme nous avons pu le faire lors de cette regrettée enquête. Dans la famille.
Qui avait porté ses fruits la dernière fois.
Oui, Della Tilio. Mm-hmm. Et bref, de toute façon, en route vers le petit théâtre rouge, en espérant qu'Aaron X-Miss s'y trouve toujours, car je ne sais pas si elle leur pauvre affaire.
Allons-y.
Très bien. Vous y attelez à vous déplacer en direction du petit théâtre rouge. Comme d'habitude, le trajet se passe en sacro. Il passe un peu de temps, vous allez arriver en début de soirée. Je rappelle que le petit théâtre rouge se situe plutôt en basse ville, ce qui commence à faire un petit trajet à effectuer. Une fois rentré à la basse ville, vous arrivez du coup au petit théâtre rouge. Descendez de vos vélos, vous les pliez, les rangez, en attendant de faire ce que vous avez à faire. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous êtes rapidement accueilli par personne d'autre qu'un petit homme assez bourru, avec un début de barbe d'ailleurs, et vous reconnaissez là, malgré tout, votre cher Aaron. Et qui semble pas très enjoué de vous revoir, mais que c'est son métier, alors qu'il se dirige vers vous. Messieurs, dames, je peux faire quelque chose pour vous?
Oui.
Oui.
Eh bien, dites-moi.
Nous avons besoin de vous parler de manière discrète, si je veux dire, maintenant.
Rentrer dans ma loge et qui se dirige vers sa loge.
Très bien, on le suit.
Ok. Vous le suivez dans la loge. Il ferme la porte derrière vous et bon, la loge n'est pas très spacieuse, hein, je vous rappelle. Vous avez même un peu du mal à tenir autant dedans, surtout qu'elle n'est pas très large, mais en s'assillant sur le coin d'un meuble, un truc comme ça. Vous arrivez à être malgré tout disposé pour entamer une discussion. Lui, il s'est assis sur son siège qui se situe plus ou moins au milieu de la loge. Il se tourne vers vous. Je vous écoute.
Vous vous souvenez de nous, j'espère. Parce que nous, on se souvient de vous.
Oui. Vous étiez les métropolites déjà pour Fouettus.
Exactement.
du nouveau sur l'affaire ?
Ça ne vous regarde pas.
Bien étonnant.
En effet, nous avons des questions plus actuelles à vous poser, comme par exemple la dernière fois que vous avez vu Maria Zinassi.
Je saurais dire il y a peut-être une lune de ça. Elle venait pas ces derniers temps. Après, on a appris ce qui lui était arrivé, la pauvre.
Ouais, fort triste. Quelles étaient les relations de Maria avec les personnes qui travaillaient ici ? Vous y compris ?
Bonne relation, une relation d'entente. Elle avait des amis.
Lesquels ?
Je saurais dire. Je dirais pas quasiment tout le monde, mais comme à peu près avec tous les organisateurs du Petit Théâtre Rouge. Malheureux Fautus, je saurais dire quelques noms si et là.
Quel était.
Me bat avec mon fulif, pardon. Était... Je vous écoute.
Quelle était très particulièrement la relation entre Maria et Fautus ?
Une bonne relation d'amis, je dirais. De bons amis. Ils s'appréciaient beaucoup.
Amis, donc plus que par rapport aux autres.
Je saurais dire, Maria a tendance à rapidement s'entendre avec tout le monde. Je ne sais pas si elle portait particulièrement dans son cœur Fautus. Je sais pas. On peut dire que oui, un peu. Ils avaient tendance à rapidement se retrouver pour discuter ensemble, mais. Disons que c'était dans le caractère de Maria aussi d'être aussi amicale.
Mmh. Vous pourriez pas être plus précis, plus sûr de ce que vous dites. Vous savez, vous parlez des métropolites, il faudrait des informations plus précises. D'ailleurs, comment va votre... Oh, excusez-moi.
Oui. Je vois pas ce qu'il y a de plus précis à juste dire que des gens s'entendent bien... Je pense qu'il y a une différence entre informations précises et juste les informations que vous voulez entendre.
Mais faites donc.
Cormina. Mm-hmm. Peut-être devrions-nous être plus insistants, je le dis tout ça en chuchotant, ou passer à une méthode un peu plus
ouais.
Active.
En fait, j'ai une question avant de dire ça par rapport à la conteuse, donc. Donc ma question à la conteuse, c'était, j'ai un idéal. Si je dis ou fais quelque chose qui va contre mon idéal, mais qui n'est pas mon spleen, du coup, est-ce que ça a un effet ?
Alors, en soi, oui, mais il n'y a pas d'effet au niveau système. Hein. Mais il y a un petit effet roleplay où tu vas pouvoir t'en vouloir, tu vas pouvoir, tu vois, genre, c'est plus joué, c'est moins système quand c'est juste l'inverse d'eux. C'est-à-dire que voilà, tu t'es pas en train de renforcer ton idéal, t'es en train de jouer un peu contre. Alors c'est pas non plus ton spin qui s'active, donc ouais, il y a un petit effet, mais c'est vraiment du roleplay, c'est vraiment à toi de doser par rapport à la gravité de ce qui se passe pour ton personnage.
Ok. Bon, du coup, je vais juste du coup consulter l'interrogatoire. Je vais poser la question qui est la suivante, c'est vous devez comprendre, monsieur, que nous ne sommes pas là pour être vos ennemis. Nous avons besoin d'informations précises, nous avons besoin d'autre chose que des « je pense » ou « c'était dans son caractère ». Nous devons savoir exactement, est-ce que, malgré le caractère très amical de Madame Azignetti, est-ce qu'elle avait... une relation particulière avec Monsieur Fautus qui serait plus prononcée qu'avec d'autres. Je ne veux pas savoir si c'était des grands amis, je veux savoir si c'était plus des amis qu'avec d'autres.
C'est bien particulier comme question. Plus des amis qu'avec d'autres. Ma foi, peut-être un peu. disons que c'est pas non plus flagrant, il y a rien de... C'était pas les meilleurs amis du monde qui se baladaient à jeune 4 main dans la main.
À votre avis, pourquoi elle nous en a pas parlé lorsqu'on a enquêté sur Fotus ?
Ça semblait, je ne sais pas, peut-être superflu de son point de vue. Vous cherchez un meurtrier.
Pourquoi personne, même pas vous, n'en avait parlé à l'époque ? Quand on posait des questions sur Fotus, ses relations.
Parce que on a évoqué Maria, et puis je sais pas, moi je me souviens même pas de réellement de notre conversation de ce jour-là. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas, sur le moment, ça n'a pas semblé être une information les plus importantes à partager. Je m'excuse si cela a causé du tort à votre enquête.
Vous savez si monsieur Baletskaya, si je me souviens de son nom, vient toujours au petit théâtre ?
Nous avons encore gardé contact avec lui, mais disons que depuis la mort de Fotus, les élans créatifs de monsieur Baletskaya, de son famille, ne sont plus des plus prodigieux. Il a besoin d'un temps de répit pour lui. Donc il ne vient pas pour le boulot, mais nous avons toujours une relation cordiale.
Vous savez si eux aussi avaient une relation particulière ? Donc Baletskaya et Maria ?
Moindre qu'avec avec Fotus, ça c'est clair, mais ils s'entendaient bien, donc non.
D'accord.
Après, ils s'entendaient bien, attention. C'était quand même de bons amis. C'était pas particulier. C'est ce que vous cherchez.
Ouais. Bon, je vais me tourner vers mes collègues et je vais les regarder d'un air qui dit que j'ai pas l'impression qu'on peut en tirer quelque chose de celui-ci. Je le dis pas, mais j'ai ces mots dans mon air.
Le regard très précis.
Ouais.
Vous connaissez quelqu'un dont les initiales sont EB ?
Oula ! Ma foi...
Qui serait plus ou moins lié de proche ou de loin en personne que nous venons de citer au petit théâtre. Oh.
Je réfléchis... Vous avez de la chance... De mon métier, je dois apprendre plus ou moins les noms de famille de chacun, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. EB, me dites-vous ? Non. Non, ça me dit rien, désolé. Non, vraiment, ça me revient pas, désolé. J'ai beau chercher, j'ai du EC. Non, pas EB. En tout cas, si jamais ça me revient... J'essaierai de vous le faire parvenir.
C'est gentil. Si vous voulez, je peux vous donner notre adresse. Non, je ne le dis pas vraiment à lui. Hein. Donc, on va voir le regard de la vie et qui vont venir sonner à la porte.
Il passera par un métropolite qui trouvera et qui demandera de faire passer le message. Puis-je vous aider d'une autre façon ?
Non.
Eh bien, merci d'être passé, messieurs, dames.
De rien.
De rien. On va aller voir Victor. Dans l'escalier.
Vous sortez de là.
Moi, j'y vais pas encore.
Et du coup, je vous demande quel est votre plan. Est-ce que c'est vraiment d'enchaîner directement en allant voir Victor, sachant que si vous y allez, il y a une petite demi-heure en vélo, donc il y a moyen d'y être avant la tombée de la nuit.
Donc c'est en basse ville qu'on est actuellement.
Ouais.
Ouais, on est plus proche de chez ce monsieur-là ou de chez moi ?
Je regarde. Dans ma mémoire, bon, je pense de chez ce monsieur-là, parce que c'est vraiment une demi-heure en vélo. Chez toi, il faut remonter un peu en haute ville. Donc je pense qu'il y a quand même un peu plus de trajet. Je pense en fait ça se joue surtout parce que le petit théâtre rouge n'est pas très loin du quartier des usines. Ouais. Enfin en gros, au niveau de distance, le plus proche c'est Victor. Ensuite c'est Victor, le mari de Fotus, hein, pas le personnage. Ensuite c'est Esther qui doit se situer à peu près à 45 minutes, je pense, de route, 45 minutes, 1 heure. Et toi tu dois être à 1 heure et demie quand on y va.
Moi je dis continuons l'enquête de toute manière. On va pas s'arrêter aujourd'hui pour aller dormir.
Oui. Oui, effectivement.
Okay. Vous dirigez voir Victor et très rapidement vous arrivez chez lui. C'est une petite demi-heure de route, c'est assez tranquille. Ça vous laisse réfléchir, discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez envie de discuter sur le chemin ou est-ce que tout est assez fluide, on peut directement enchaîner ?
Non, c'est rassurant.
Ok, bah je vais demander du coup à Hugo ce qu'il pense en mode intérieur. Dis-moi tout, comment tu te sens, à quoi tu penses, dis-moi absolument tout.
Eh bien, Hugo est assez frustré. Cet interrogatoire qui n'a pas mené à grand-chose. Donc, fameux Aaron qui ne s'est pas montré opératif. Mais, ça étant bien sûr un peu qui vient se rajouter au fait que Hugo commence à être tendu, évidemment, de leur retour de Procedimento. Il Procedimento, pardon, je vais le dire une fois. Et donc, il y a un peu un espèce de sentiment de stress, de paranoïa, de frustration et de. D'être tout le temps sur ses gardes qui, comment dire, semblent un peu envahir Hugo. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. C'est très compréhensible. Et le temps de ce partage d'informations personnelles, ça nous permet d'arriver chez Victor. Vous arrivez, la nuit commence à peine à tomber, c'est vraiment le coucher de soleil. Vous toquez chez lui et au bout de quelques instants, la porte s'ouvre. Vous voyez Victor vous faire face. Excusez-moi. Ce que vous pouvez voir déjà physiquement, hein, c'est que il a un look qui a malgré tout changé, parce que même si vous l'avez connu déjà un peu barbu et des cheveux un peu mi-longs, vous sentez qu'il y a un côté beaucoup plus négligé. La barbe est pas taillée, et les cheveux ne sont absolument pas coiffés. Il n'a pas l'air d'être au plus grand de sa forme au moment où il vous ouvre cette porte et vous regarde un peu hagard, en attendant que vous annonciez la raison de votre présence.
Bonjour, monsieur Bastien, nous avons des questions à vous poser.
Très bien, à rentrer. Et qui se décale et vous laisse rentrer dans son petit appartement. Il s'assoit. Vous regarde. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
Est-ce que vous connaissiez Maria Zinazzi ?
Oui, tout à fait.
Développé.
C'était. Une amie à Fotus. Quand j'ai connu Fotus, ils se connaissaient déjà et avec le temps, c'est aussi devenu une amie.
Ok. Oui. Je vais me tourner vers mes compagnons. Je suis dépité. Heureusement, j'en ai. Alors, j'ai l'impression de suivre une piste, mais à chaque fois qu'on avance un milieu dans cette piste, je sais la mort. Donc, je vais juste me tourner et je vais faire. Bon, quelqu'un veut poser la question avec EB là, parce que.
Ouais, ce que j'allais dire, t'inquiète pas, j'ai une question qui risque de débloquer toute la suite de l'enquête.
Ouais,
c'est quelqu'un dans les façons EB.
EB. Ah oui.
Et que ça nous aide. Oui. Pardon. Non, je ne dis pas la fin de ma phrase quand tu dis oui.
Sûrement, il y a plein de gens qui ont ce genre d'initial.
De manière peut-être un peu plus certaine et un peu moins embrumée.
Je réfléchis, excusez-moi. Il me semble... excusez-moi, mais... faut dire que les noms de famille, c'est pas trop la spécialité ici. On l'utilise pas énormément. Ah ouais, je crois que sur la place, il y a, vous savez, de jour, les étals marchandes. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, la vendeuse rhodésienne qui s'appelle Echo, je crois que son nom de famille commence par un B. Badis, Bundis, quelque chose comme ça. Je me souviens plus de son nom de famille, je suis désolé, mais je sais qu'il a cette sonorité-là. Il y a de fortes chances que ça commence par un B, mais...
Vous la connaissez, nous ?
C'est parce que elle est sur la place marchande dans laquelle on achète la majorité de nos ressources et que, vous savez, on discute avec les gens, on apprend des choses. Après, ça me semble très étrange que c'est une femme, ma foi, rangée, qui a juste une vie de pauvre marchande.
C'est la seule personne que vous connaissez avec un EB, quelque chose peut-être, qui sont en commun avec Marcia et votre défunt mari.
Ouf, en commun. Oh, alors là, non, je crois pas, non. Non, ça me dit rien, désolé.
Ça vous dit quelque chose, ça ? Et je vais chercher le masque, je sors le masque du... de la boîte.
Ouais. Putain, j'ai eu la même idée.
Vous voyez qu'il le regarde. Non, ça devrait.
Je me suis pris pour mon coche pendant un moment et j'ai voulu dire c'est celui qui a tué votre main. Mais je ne suis pas mon coche, non.
Pardon.
Vous êtes sûr que ça vous dit absolument rien ? Peut-être dans une pièce de théâtre auquel Fotus aurait participé, aurait organisé.
Non,
le petit théâtre rouge, par exemple.
Non. On fait très peu de pièces masquées parce que ça coûte énormément d'argent et que c'est un théâtre populaire. Je suis sûr et certain que c'est pas un accessoire qu'on a utilisé.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous, je suppose. Enfin, je suis désolé si j'arrive pas à vous être plus utile.
Ce n'est pas un problème, vous inquiétez pas. On va s'arranger. Moi, je fais signe aux autres que je me barre.
Je suis.
Bah, il vous salue, vous voyant partir, et ferme la porte derrière vous. La nuit commence à franchement être présente. Et il va donc falloir choisir. Est-ce que vous essayez de persévérer dans une piste ? Est-ce que vous prenez une soirée de repos ? Et dans ce cas-là, où est-ce que vous dormez ? Parce que le QG est plutôt éloigné.
Moi, je suis plutôt pour m'opposer là. Je pense qu'on a déjà bien... En vrai, même si on n'a pas forcément beaucoup avancé, on a déjà fait beaucoup aujourd'hui. Donc, on sera sans doute plus efficace après une bonne soirée de repos.
Ouais, de toute manière, on va rien faire de plus.
Ok. Où est-ce que vous allez vous reposer ? Est-ce que vous essayez de chercher... au plus proche, dire quitte à dormir dans une auberge, un truc comme ça, ou est-ce que vous allez vous allez chez l'un d'entre vous, est-ce que vous essayez de marcher quitte à rentrer très tard, dites-moi tout.
Le QG ?
Alors, le QG, là, il faut bien compter un bon 3 heures de route, je pense, si je dis pas de bêtises, que vous êtes, ouais, c'est ça, 1h30 environ de chez Kim. Ah, mais on s'est éloigné depuis, donc, ouais. 3-4 heures de route de vélo pour rejoindre le QG.
On peut prendre une auberge, comme ça, personne
se pose une soirée.
Très bien. sachant que ça ne coûte pas si cher que ça, hein, honnêtement. Parce que le but des auberges, c'est accueillir les gens, donc vous doutez bien qu'ils vont pas mettre une lige la nuit. Sinon, il y a assez peu de gens qui pourraient dormir chez eux, tandis qu'un... en 5 nuits. C'est vrai. Mais on n'est pas dans le même, tout à fait dans le, la même optique. Vous allez donc chercher, du coup, une des auberges les plus proches que vous avez, et vous allez rapidement tomber dessus. Vous allez à l'auberge de la Griffe Noire. C'est une auberge qui se trouve toujours plutôt en basse ville, hein, mais qui remonte un peu plus par rapport à là où vous vous situez avant avec le petit théâtre rouge et Victor. L'auberge est, sans être miteuse, pas non plus très confortable, mais elle a l'avantage de proposer des chambres qui, elles, sont de qualité. C'est-à-dire que là où la structure et l'accueil avec la salle de repas est assez mal entretenue, les lits et les chambres, eux, sont pour le coup assez impeccables. On sait que, enfin, vous le voyez directement, mais ils capitalisent absolument tout dedans à vous vendre directement l'état des chambres, etc. À peine rentré quand vous vous vantait déjà la qualité des chambres. Vous prenez de quoi vous reposer la nuit. Est-ce que vous faites au plus simple et vous prenez directement de quoi vous reposer, ou est-ce que vous prenez la formule complète et vous prenez de quoi manger ce soir avec le repas
Je pense qu'on va prendre la formule complète, donc à boire et à manger.
Ouais. Ok.
Enfin, à manger et à dormir. Enfin, on se comprend.
Oui, boire, manger, dormir. La formule complète, très bien. Eh bien, on vous invite tout simplement à vous installer. Chacun paye sa part. Il y en a pour quelques... Alors, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est sous, hurle, lige. Donc, pour quelques hurles. Sauf si je me trompe, mais normalement, c'est ça. Vous vous installez et vous allez pouvoir, du coup, passer une soirée plutôt agréable. Et donc... vous passez la soirée, vous allez pouvoir boire plus ou moins à volonté. Alors les pichets d'absinthe sont plus ou moins en formule à volonté. Vous pouvez demander, vous avez un pichet d'absinthe, vous pouvez le partager. Les alcools un peu plus grands, tels que la bière et même le cognac, par contre, sont payants au verre. Ce qui vous permet plus ou moins de choisir avec quoi vous décidez de consommer. Quant au repas, c'est un repas qui va vous faire plutôt du bien, puisqu'elle change un peu de la mousse habituelle, puisque vous avez du coup une myracine, j'ai oublié le nom des trucs, je vous le dirai la prochaine fois, où on fait pousser les champignons au QG. Là, vous avez un peu un repas bas de luxe, pour le coup. Alors, pas vraiment de luxe, hein, évidemment, mais vous avez malgré tout du pain, vous avez... un morceau de viande qui semble être du fulige avec quelques légumes proposés. Ce qui vous change un peu de la nourriture. Alors c'est très rare comme type de repas et vous commencez à comprendre vraiment le où passe l'argent finalement dans cette auberge, c'est-à-dire l'entretien des chambres et les repas. Ce qui explique totalement le côté un peu misérable. D'ailleurs, pour certains, c'est vraiment un peu limite, c'est-à-dire que vraiment voilà, les couverts sont assez cras, etc. Enfin, c'est pas non plus le meilleur moment, mais le repas vaut le coup si vous arrivez à passer au-dessus du côté un peu misérable de l'endroit. Est-ce que vous voulez discuter entre vous, pas forcément des affaires en cours, hein, vous inquiétez pas, durant ce repas, est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie d'échanger ou même penser, parce que vous avez des questions à me poser sur des trucs personnels qui sont en attente et vous demandez où ça en est. Bref, profitons de ce moment de repas pour échanger.
Je crois pas. Mis à part que je vocalise encore une fois que cette affaire m'énerve. J'aime vraiment pas que, en plus, il Procedimento soit venu rajouter le fait de se moquer de nous par-dessus et de nous envoyer sur des pistes qui... Je vais pas dire des fausses pistes, mais des choses qui sont vraiment... sont énervantes et tout ça, et si je le chope, je le tabasse. Ça se comprend.
Ok. Bien, dans ce cas, si personne n'a plus à dire. Eh bien,
Dire, mais je forcément de manière RP. On va faire la discussion quand même pendant tout le repas. On va pas passer la soirée entière à se regarder dans le blanc des yeux. Mais oui, on va dire qu'on parle un petit peu de tout et de rien. La pluie et du beau temps, comme on dit.
Ok. Vous passez donc votre soirée à parler de la pluie et du beau temps. Arrivé une heure assez tardive, vous considérez que c'est l'heure d'aller se coucher. Et vous payez du coup votre note au tavernier et vous allez rejoindre vos chambres respectives. Vous y passez la nuit, une nuit plutôt reposante malgré tout. Vous réveillez le matin, à l'aube, par habitude. Vous descendez au niveau de la salle principale, celle dans laquelle vous avez veillé le soir. Et vous remarquez que deux métropolites sont présents, debout, et semblent chercher quelqu'un. Quand vous descendez...
Je vais me lever, je vais aller les voir.
Très bien. Juste avant que tu ailles les voir, il y a juste l'homme, le tavernier, qui en fait, enfin l'aubergiste, appelez-le comme vous voulez, vous tend un morceau de gâteau qui est compris dans l'offre. C'est le dernier truc dont vous avez le droit de manger sans payer de surplus. Donc il met une petite courbette et il vous montre que c'est à votre disposition. Et toi, Hugo, tu diriges directement vers les métropolites. Tu y vas et tu te montres juste acte de présence, voir s'il te parle ou c'est toi qui entame la conversation. Ok.
Ouais, j'entame la conversation. Bien le bonjour, très cher père. Je constate que vous semblez être occupé. Pourrais-je être du
ah. Oui. On cherche les membres du QG Indigo.
Pas vu, désolé.
Eh bien, vous avez de la chance. Ils sont là. Clemens. Hugo Clemens. Oh. Ravi de faire votre connaissance.
Wow. Désolé. On avait entendu qu'ils étaient quatre. On n'a pas réalisé tout de suite que c'était vous. En tout cas...
Ah, mais nous sommes bel et bien quatre. Mes collègues sont en train de manger. Vous voulez me suivre?
Oui, bah, avec, avec plaisir.
Il vaut quatre jours quand ils vont voir qu'on n'est que trois. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis en train de déguster mes gâteaux. Parce que j'en ai rien à...
Ils ont de déguster vos petits gâteaux. Qui sont des gâteaux qui ont une pâte assez sèche, mais un intérieur un peu moelleux. Quoi. C'est assez particulier. Un peu comme une... Bon, comparaison un peu avec notre vie à nous, mais pour vous donner des indices gustatifs. Un peu comme une bûche de Noël qui aurait séché à l'air libre. Le gâteau bûche de Noël, pas la glace, évidemment. Hugo, du coup, vous amène les métropolites. Vous êtes en train de manger vos petits gâteaux du matin. Et vous voyez les métropolites, enfin les deux du coup métropolites s'approchaient de vous. Un regard un peu heureux de. Ah. Eh bien, messieurs, déjà c'est messieurs dames. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous savez, on a entendu vos exploits et. Enfin bref, c'est. Juste petit plaisir personnel, je vous admire énormément pour votre courage. Si on vous cherche, c'est parce que nous avons reçu un message cette nuit disant que votre supérieur, monsieur Del Innocenzo, vous demandait dans les trois jours à venir pour vous parler.
Oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir passé le message. Ça fait toujours plaisir de croiser des collègues, de toute manière.
Oh, mais tout pareil, vraiment, le plaisir est pour nous. Et je peux me permettre une question un peu indiscrète. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous êtes toujours sur l'autre? Bon, entre nous, après, si c'est vraiment confidentiel, ce qui n'est pas le cas de notre affaire, par exemple, je comprends, hein, je sais ce que c'est.
On travaille juste sur un n'importe qui a disparu.
Je le vois. Ah. Toutes les affaires n'ont pas la saveur de l'autre.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà. Nous, on travaille sur des vols de fils de cuivre. C'est... Voilà.
Mmh. Bon.
Et on mobilise des métropolites pour des...
Ça, vous savez, hein, faut croire qu'à Venise, ils n'ont pas tout à fait compris à quoi servait le ministère de la propagande. Hein. Alors, grand respect, bien entendu, pour notre hiérarchie, mais il faut avouer que la ville vénitienne a toujours un peu de résistance et on nous emploie comme de vulgaires gendarmes ci et là, mais bon. On fait notre devoir, après tout.
C'est là où je suis bien content de faire partir de la cellule Inter-Empire. Bien que nous dépendions... du ministère vénitien, nous ne sommes pas affectés de telle bassesse, sans vouloir vous offenser.
Ah non, 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 je suis le premier à le dire, et d'ailleurs, félicitations. Honnêtement, je vous envie même un peu. Hein, une telle cellule, ça aurait été un plaisir. Quels sont vos plans? Vous êtes encore dans la basse ville. Vous avez donc du coup cette convocation d'Alceo. Que comptez-vous faire? Ok.
On va s'y rendre parce que de toute manière,
elle est directe.
Et rien ne fonctionne. Alors.
Ok. Vous allez du coup voir Alceo Del Innocenzo. Pour ce faire, eh bien, vous quittez la base ville en vélo et vous remontez. Vous avez quelques heures de route, hein, comme je vous disais un peu, 4 heures à peu près. Ce qui fait un sacré trajet, mais qui vous permet d'arriver sur les coups de 10-11 heures, parce que vous êtes levé à l'aube, donc ça vous permet d'avoir quand même un petit bout de matinée là-bas. Arrivé au bâtiment institutionnel du ministère de la Propagande, vous vous dirigez vers le bureau d'Alceo, un peu habitué de la maison maintenant. Alceo est comme d'habitude dans son bureau. Pardon. Et tout simplement, dès que vous arrivez, il vous invite à rentrer.
Ah, bonjour.
Comment ça va depuis cette dernière dizaine de jours? Vous avancez?
À la fois oui et à la fois non.
Compliqué. Si vous avez besoin de ressources ou quoi que ce soit, hein, toujours n'hésitez pas. On sait que vous êtes envoyé sur des affaires qui sont un peu compliquées. Et procedimento, bon. Clairement, je m'attends pas à des résultats dans la semaine, contrairement à certains. L'affaire Azinati, c'est ça?
Oui. Pas seulement, mais oui.
Oui, oui, il y a... Attendez, que je me souvienne des rapports. Bon, il y a évidemment l'affaire de la Veridici. D'ailleurs, ça avance bien.
En effet. Ça va être lancé sous peu, mais c'est Hugo que j'en connais plus sur ce plan que celle-ci.
Parfait. Hugo, vous vous sentez prêt pour votre plan?
Oui. S'agirait peut-être de trouver, peut-être je pensais aller contacter la gendarmerie peut-être pour avoir un peu d'aide, et c'est en bonne voie.
Très bien, et ben je vous souhaite que ça fonctionne. Ah, je suis plutôt content de savoir que malgré les difficultés vous en sortez bien. Et l'affaire du coup Maria Zenati, vous avez trouvé du coup ce qu'il en était, si du coup Lena Baletti c'était avec, sans lien?
Nous n'avons pas encore pu creuser la piste de Baletti très en profondeur.
Ok. Très bien. Eh bien écoutez, malgré tout, je vous souhaite tout le courage qu'il faut. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, d'ailleurs merci de venir aussi rapidement. Si je vous ai convoqué, c'est surtout que j'ai eu une prérogative. C'est-à-dire que, voilà, je viens de recevoir l'ordre de vous demander de déjà commencer à réfléchir à trouver des collègues. Ce que m'a demandé nos supérieurs est assez exceptionnel, mais je pense qu'ils ont une idée derrière la tête, parce qu'ils ne veulent pas affecter d'autres métropolites pour cette cellule, hein, comme ils n'ont pas voulu l'affecter pour commencer la cellule, ils ont voulu recruter de nouveaux métropolites, hein, vous. Eh bien, ils demandent que vous trouviez de votre côté des gens de confiance pour créer un peu une équipe B. L'idée, c'est que, vous le savez, hein, mais votre équipe est en test, hein, pendant un an, vous avez d'ailleurs admirablement réussi la première teinte, et je suis vraiment fier de vous, hein, compris. C'est très important pour moi de l'indiquer, parce que avec toutes les difficultés qu'on a vécues, vous avez quand même su garder la tête haute. Et disons que l'idée qu'ont actuellement nos supérieurs, c'est que si vous devez être mobilisé sur une affaire importante, étant donné que vous avez des affaires un peu plus qui demandent un peu plus de responsabilité, hein, que certains autres métropolites. Si jamais vous devez être indisponible parce que vous devez vous concentrer sur une affaire, il faut que votre QG continue à tourner. Pour ce faire, c'est vous devez trouver des gens de confiance qui sont formés ou qui vont être formés, puisque si vous nous soumettez des personnes, ils seront soumis à un test métropolite, et s'ils réussissent, A-League se chargera de leur formation durant les deux prochaines teintes. Compris ? Bien, parfait. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit qui peut vous aider un peu plus.
Je regarde mes compagnons pour voir s'ils veulent parler de notre... du colis qu'on a reçu ou pas, mais moi-même je dis qu'on devrait pas, mais...
On me pose la même question. Je voulais pas le faire moi, comme ça c'est pas moi d'assumer si jamais... Bon, quoi.
Non. Personne ne réagit du coup pour un oui, pour un non.
Je dirais pas.
Ok, eh ben on lui parle pas. On se tait. On va simplement...
En vérité, je ne sais pas si nous-mêmes avons peur que ça nous retombe dessus si on n'en parle pas.
On peut considérer que cette conversation, si vous voulez parler directement, que cette conversation avait eu lieu avant d'arriver à Alceo, parce que de toute façon, vous savez que vous allez voir Alceo, donc vous êtes posé la question sur le chemin. Donc vous pouvez en parler directement, il n'y a pas de problème.
Bah, à la fois, ça pourrait nous aider d'un autre côté, et si ça ne nous aide pas, ça nous rajoute plus de pression qu'autre chose. Ça nous rajoute même de nouvelles menaces sur nos familles. Voilà, je vous laisse continuer. Vous pouvez renchérir.
Non, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit. Pour être honnête.
Bon, bah, dans ce cas-là, d'accord, on dit rien, mais soit on diffère l'arrivée de quelque chose. Enfin, on l'annonce quelques jours plus tard, quand même. Soit il faut vraiment qu'on soit les plus discrets du monde. Enfin. Il va falloir qu'on en parle à un moment ou à un autre. Pas juste dire ça. Pas dire la politique de l'autruche, quoi. Au bout d'un moment, ça peut pas être mis sous le tapis.
Ouais. Oui, bah, si tu veux. Pour l'instant, moi, en tout cas, pour maintenant, je suis pas d'accord. On s'en va.
Ok.
Ok. Oui, bah, qui vous souhaite bon courage. Je vous demande d'être efficace, du coup, pour ce nouveau objectif que. Le ministère demande une proposition assez rapide, hein, au moins avant la fin de l'atteinte. Et vous quittez les lieux. Vous quittez les lieux. Et ouais. Que faites-vous ? Est-ce que vous discutez ? Est-ce que vous avez quelque chose à discuter ? Est-ce que vous avez quelque chose à entreprendre ? Dites-moi tout.
Je viens de penser, pendant qu'on était avec notre cher supérieur, que... le masque, c'est lié au costume, enfin au costume des procédimentaux, et qu'on avait déjà parlé du costume avec quelqu'un, qui était le contact de Victor, qui est cette dame qui s'appelle Elsa, c'est un E. Et on le connaît, en tout cas moi personnellement, je ne connais pas son nom de famille, et c'est peut-être un B.
On peut toujours Dommage que Victor soit pas là, on aurait pu lui demander directement.
En effet. C'est encore une piste dans laquelle on peut se jeter dans l'inconnu, parce qu'on sait toujours pas si c'est vraiment une piste ou pas.
Oui. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, vu là où on en est.
Vous vous lancez du coup à la recherche d'un contact avec Elsa, la fameuse contact de Victor.